Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Nous avons entamé la semaine passée l'étude de la famille avec une enquête portant sur le mariage et deux de ses corrélats, le divorce et le veuvage. Aujourd'hui, nous allons plus largement examiner les différentes étapes de la vie dans une famille qui vont de la naissance à la mort, et vous pourrez voir que j'ai en conséquence légèrement modifié le titre de la séance tel qu'il avait été annoncé en décembre dernier. Le but principal de la famille était à l'époque d'avoir des enfants. Dans une société qui ne connaissait pas la notion de retraite, les enfants constituaient l'assurance d'avoir une aide jusqu'à la fin de ses jours, et même au-delà, en raison de la croyance en une survie diminuée, certes, mais réelle, après la mort. Il nous faut d'abord examiner la manière dont les familles s'agrandissaient, par la naissance de descendants ou par l'adoption. Nous verrons ensuite quelques caractéristiques de l'enfance, avant de traiter la mort et ses conséquences juridiques, le partage des héritages. Nous allons donc commencer par voir ce qui entourait les naissances et poursuivre avec le cas particulier des adoptions. Dans la documentation disponible, les naissances ne donnaient pas lieu à des actes équivalents des registres de baptême sous notre ancien régime ou les registres d'état civil de nos jours. Mais nous les connaissons parce qu'elles étaient ressenties comme une occasion de se réjouir, et donc ça donnait parfois naissance à des missives. En effet, les pères ne se trouvant pas toujours auprès de leurs épouses au moment où elles accouchaient, il fallait parfois leur envoyer une lettre pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et on a une missive de ce genre écrite par la reine Shiptou. Azimrilim dit à Monseigneur, ainsi parle Shiptoum ta servante, « Je viens d'enfanter des jumeaux, un garçon et une fille. Que Monseigneur soit content. » Alors, il ne savait pas que c'était des jumeaux hétérozygotes, mais il était censé être content puisqu'il en avait deux d'un coup. Nous ne savons pas exactement de quand date cette lettre, mais je vous ai déjà dit qu'à la fin du règne de Zimrilim, la reine Shiptou avait habité le petit palais oriental découvert au chantier A. Or, parmi les rations des textes de ration exhumés entre 1982 et 1985, on a découvert 9 textes libellés repas de la reine et portant l'empreinte du sceau de Shiptou, et ils sont datés de la deuxième moitié de l'année 11 de Zimrilim. Il s'agit de pains qui sont destinés à la reine, à Radniadou et à une certaine Shubultou, mais donc il n'est pas exclu qu'on ait là le nom des deux jumeaux, auquel cas ces naissances auraient eu lieu vers la fin du règne de Zimrilim. Alors, dans ce cas-là, c'était Shiptou qui avait informé directement le roi de la naissance de leurs enfants, mais parfois, c'est un tiers qui intervient. Vous vous rappelez le triste sort de Kiroum, qui était l'épouse du roi Hayasumu d'Ilanusura? Eh bien, ce dernier était d'autant plus ingrat aux yeux de Kiroum qu'elle lui avait donné un fils. C'est la nouvelle que nous connaissons grâce au chef de la garnison Mariotte, qui écrivit à Zimrilim à la fin d'une longue lettre qui traitait d'affaires politiques. Autre chose, Kiroum a accouché d'un garçon, que Monseigneur se réjouisse. Et donc là, c'était le grand-père qui devait se réjouir. Et puis parfois, c'était le gendre qui transmettait à son beau-père la bonne nouvelle. C'est ainsi que Zimrilim reçut un billet de Sibkunaadou, le roi de Shuda, aussi bref qu'enthousiaste. « Tu m'avais donné en mariage pour cette maison, c'est-à-dire Shuda, une Kallatoum. Or, à l'heure actuelle, tes dieux se sont manifestés et elle a eu un mal, donc sois heureux. » Quelques textes comptables enregistre des présents faits à une femme qui vient d'accoucher. Il s'agit le plus souvent d'huile. Par exemple, dans ce petit billet qui date du temps de Yasmaradou, 5 litres d'huile de premier choix pour Abilamassi, femme et chanson, lorsqu'elle a accouché. Et on peut penser que cette Abilamassi faisait partie des concubines du harem de Yasmaradou. On trouve aussi à l'occasion un vêtement dans une liste de dépenses qui date de la 12e année de Zimrilim, un vêtement ou doublou de deuxième catégorie, Yataraya, servante, c'est-à-dire épouse secondaire du roi, lorsqu'elle a accouché. Et il ne s'agissait pas seulement d'une pratique royale, puisque des textes identiques ont été retrouvés dans des maisons privées, dans le sud il est vrai, en l'occurrence à Larsa. Comment était choisi le nom d'un enfant ? Ça, c'est... Nous n'avons pas de débats familiaux comme il en existe de temps en temps. Ce que nous voyons, c'est qu'il y avait manifestement des coutumes. Si l'on regarde par exemple les fils de Zimri-Lim, eh bien on voit que l'un d'eux s'appelait Yagid-Lim comme le père de Yardun-Lim, un s'appelait Yardun-Lim comme le Yardun-Lim qui était grand-père ou oncle de Zimri-Lim, vous vous rappelez qu'on n'a pas de certitude à ce sujet, et il y en a un qui s'appelait Hadni-Adou comme le père biologique de Zimri-Lim. À vrai dire, ici, l'argument est un peu circulaire, parce que c'est un des arguments pour restaurer le nom de Hadni-Adou dans le sceau qui ne comportait que la légende « fils de Hadni », et puis le nom du dieu était cassé, c'est parce qu'un des enfants s'appelle Hadni-Adou, c'est un des arguments qu'on utilise pour dire « il s'agit de Hadni-Adou », et donc là maintenant j'utilise l'argument inverse en disant que ce Hadni-Adou s'appelle comme le père biologique de Zimri-Lim, mais tout cela est relativement certain. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne possède pas encore suffisamment d'études prosopographiques qui permettent de dégager l'existence, sinon de règles, du moins d'usages. Un cas très particulier nous montre qu'un nom à donner à un nouveau-né pouvait être révélé lors d'un rêve. Nous apprenons cela dans une lettre de Shimatoum à son père Zimri-Lim. Et au sujet de la fille de Dame Teparhum, dans un rêve que j'ai eu, un individu se tenait debout et disait « La petite, fille de Dame Teparhum, on doit l'appeler Tagid Nawum. » Voilà ce qu'il m'a dit. « Maintenant, Monseigneur doit faire décider de cela par un devin. Si ce rêve est réel, Monseigneur doit appeler la petite Tagid Nawum, qu'elle soit appelée ainsi et que le bien-être de Monseigneur soit constant. » Alors, la procédure qui est ici indiquée est connue par ailleurs. Il fallait que le contenu du rêve fût validé par une consultation oraculaire. Donc, le roi devait demander à un devin de poser la question « La fille de Teparhum doit-elle être nommée Tagid Nawum ?» Et on sacrifiait un animal et de l'examen du foie de cet animal sacrifié, si la réponse était positive, eh bien, on devait suivre l'indication du rêve. Et vous comprenez bien la logique, les dieux ne peuvent pas, par un examen hépatoscopique, donner le nom d'un enfant. Donc il faut qu'ils aient recours à un autre intermédiaire, mais on veut vérifier qu'on n'a pas mal compris leurs indications. La paléodémographie est encore impossible pour de si hautes périodes, mais on possède néanmoins quelques dossiers privilégiés au sein des archives de Marie qui ont été étudiés par Jean-Marie Durand et Brigitte Lyon. Il s'agit de tablettes qui comptabilisent des familles de déportés à la suite des campagnes militaires menées par Zimri-Lim à la fin de son règne. Les données sont particulièrement importantes pour l'année 12. Elles concernent environ 1500 personnes, dont plusieurs centaines d'enfants. Les plus grandes tablettes enregistrent les prisonniers faits dans une même localité. Ils sont répartis entre différents responsables mariottes chargés d'acheminer le butin humain jusqu'à la capitale. Je reprendrai ici la description de ces tablettes par Brigitte Lyon. Les déportés y sont présentés par famille, décrites selon un schéma général fixe. Chaque membre est enregistré par son nom, précédé du clou vertical déterminatif de l'anthroponyme. Le scribe écrit un nom par ligne. Le premier nom est ordinairement celui d'un homme. Viennent ensuite les autres noms d'hommes, puis les noms de femmes, précédés par l'idéogramme correspondant. Après les adultes sont comptés les enfants, les garçons, tour, les filles, mis de tour. La mention « maison de un tel », à entendre ici « famille de un tel », ferme la séquence. Et le dernier nom, celui du chef de famille, correspond habituellement à celui de la personne qui ouvrait la séquence, dont le nom se trouve ainsi répété à la fin de l'énumération. Malheureusement, les relations familiales des individus entre eux ne sont pas précisées. Et donc on ne peut pas savoir si une femme adulte est la mère, la sœur, l'épouse ou la fille du chef de famille. Le tableau qu'on peut établir montre que la majorité des unités compte 2 à 5 personnes, mais qu'il existe aussi des familles plus importantes, jusqu'à plus de 10 personnes. Il existe quelques familles monoparentales, le plus souvent une femme seule avec des enfants à charge. Beaucoup de familles se composent d'un homme, d'une femme adulte et d'un ou plusieurs enfants. Ce sont apparemment des familles nucléaires, un couple accompagné de sa progéniture. La répartition des individus par tranche d'âge est intéressante. La population déportée de chaque ville comprend toujours moins d'une moitié d'enfants, et ceci représente en gros un tiers à plus des 2/5 des prisonniers. Et les enfants au sein représentent entre 5 et 10% de l'ensemble des déportés, c'est-à-dire entre 11 et 28% des enfants. Mais le problème que nous avons pour interpréter ces chiffres, c'est l'estimation de l'âge auquel les individus passaient d'une catégorie à l'autre. On ne sait pas à partir de quand un scribe considérait que ça n'est plus un garçon, mais c'est un homme, ça n'est plus une jeune fille, mais c'est une femme. La stérilité était une des hantises des gens de cette époque, et de fait, on connaît le cas de familles dont on nous dit qu'elles s'éteignent. Le gouverneur de Terka, Kibridagan, écrivit ainsi à Zimrilim « Les habitants de Terka se sont concertés et ils m'ont dit ceci. Le 10e jour après la fête du vin, Agboudadi est mort et sa maison se trouve éteinte. Il faut qu'on prenne d'auprès de toi ses biens. Voilà ce qu'ils m'ont dit et moi j'aurais répondu « En attendant d'avoir informé mon seigneur, je ne peux aucunement ouvrir la maison d'Agboudadi. » Cet individu était connu comme marchand et donc on peut supposer qu'il disposait de biens assez importants conservés dans sa demeure et le gouverneur n'osa pas en entreprendre ne serait-ce qu'un inventaire sans l'ordre du roi. Bien souvent, les chefs de famille sans enfants prenaient les devants en adoptant des individus qui devaient prendre soin d'eux jusqu'à leur mort et par la suite. On a, dans le palais de Marie, deux contrats d'adoption qui ont été conservés. Le premier date de l'époque de Yasmaradou et il a été publié par Boyer dans ARM 8, numéro 1. Je lis le texte. Yaratiel est le fils de Hillaloum et de Dame Alitoum. Il aura même bonheur et malheur qu'eux. Si son père, Hillaloum, et sa mère Alitoum disent à leur fils Yaratiel, tu n'es plus notre fils, ils perdront tout droit sur la maison et son mobilier. Si Yaratiel dit à Hillaloum son père et à Matoum sa mère, c'est Alitoum, excusez-moi, il y a une erreur, tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère, on le rasera et on le vendra comme esclave. Si Hillaloum et Alitoum ont d'autres fils, Yaratiel restera l'héritier, il prendra une double part des biens dans la maison de son père, Hillaloum, et ses frères plus jeunes partageront le reste à égalité. Ensuite, on a une clause d'irrévocabilité avec une peine prévue en cas de contestation, 20 témoins et la date. La rédaction de ce contrat est assez classique. Et vous observerez que figurent seulement les noms des parents adoptifs. On n'a pas les noms des parents biologiques. Et c'est la coutume à l'époque paléo-babylonienne lorsqu'on a affaire à l'adoption d'un adulte. On indique le nom des parents biologiques que s'il s'agit de l'adoption d'un enfant. Ici, donc, il s'agit manifestement d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et adopta un adulte de façon à avoir un héritier qui s'occupe d'eux pendant leurs vieux jours et après leur mort. L'adopté doit être en tout solidaire de ses parents adoptifs, c'est ce que signifie la première clause. Et ceux-ci ne peuvent renier leur fils adoptif sans perdre leur bien qui constitue l'héritage. Inversement, le fils adoptif ne peut renier ses parents sous peine d'être réduit en esclavage. Et la dernière clause est intéressante car elle prévoit ce qui se passerait si ce couple venait à avoir des enfants. Donc on peut supposer que la femme est encore en âge de procréer. Yaratiel serait considéré comme l'aîné et à ce titre jouirait d'une part d'héritage préférentiel. J'y reviendrai un peu plus tard. Le second contrat, encore inédit, documente une situation très différente. Hidatum, Zaraloum et Itziachar sont les enfants de Ilinérim et d'Am Durchatum. Ils partageront ses bonheurs à elle et ses malheurs à elle. Si Hidatum, Zaraloum et Itziachar disent à Durchatum leur mère « Tu n'es plus notre mère », ils sortiront de la maison située à Humzan. si Durchatum faute contre ses enfants, mâles et femelles, et puis malheureusement, vous voyez que la suite du texte a disparu, et on a simplement la fin de la liste des témoins sur la tranche latérale. On ne connaît pas la date, l'emplacement d'un éventuel serment qui aurait pu donner le nom du roi n'est pas conservé, et ni la paléographie, ni la prosopographie ne viennent à notre aide. Mais ce qui est intéressant, c'est que les clauses ne concernent que les relations entre les trois adoptés et leur mère adoptive d'Urshatum. Et cela fait penser que cette dernière a épousé Ilinérim une fois celui-ci veuf et qu'elle a adopté les enfants du premier lit de son époux. La cassure nous empêche de savoir quelle punition était prévue au cas où la marâtre maltraiterait ses enfants adoptifs. Un texte extraordinaire a été publié par Jean-Marie Durand dans ARM 33, qui a fait l'objet de commentaires par Sophie Desmarlafon et Nele Ziegler. Il s'agit d'une lettre envoyée par Sumuhadou à Zimrilim au sujet de la famille d'un certain Rip Ilim. Je cite le début du texte. « Leur mère est identique. Elle avait enfanté Abiérar en premier pour son mari, autre traduction possible pour son premier mari. Son mari l'avait abandonnée et était parti pour Katna. Elle a alors enfanté Ushtashniel et Dagan Pilar pour la rue. » Alors cette expression, sans parallèle, signifie ici clairement que ces deux enfants sont nés hors mariage. Je reprends la lecture du texte. « La dixième année, son mari est revenu et il a alors ramené à sa maison son épouse avec Ushtashniel et Dagan Pilar, ses enfants qu'elle avait enfantés pour la rue. Depuis qu'elle est revenue à sa maison, elle a enfanté Samsi Erar et Umminikal une seconde fois. » Donc, arrivé à ce point, vous voyez qu'il y a cinq enfants. Il y en a un qui est né avant que le père ne parte pour Katna. Il y a deux enfants qui sont de père inconnu. Et il y en a deux autres qui sont nés après que la femme soit revenue dans la maison de son mari. Et le texte continue. « La mère de tous, donc Dagan Teri, a insisté auprès de son mari, disant « Il ne faudrait pas que tôt ou tard, leurs autres frères que j'ai enfantés pour la rue ne soient vendus comme tu as vendu Yatsiadou, ton esclave. Prends-les donc comme enfants et qu'Abiérar soit l'aîné. » Alors Rip Ilim, qui avait pris en compte sa demande, s'est levé et en tant que leur père, a établi, alors là on a un passage qu'on ne comprend pas bien, ce qui était acte de malveillance, acte contraire au bon droit, et tablette en bonne et due forme, déclarant « Abiérar est le frère aîné, les autres, les cadets. Eux tous sont mes fils, sont mes enfants. Et la marque distinctive du simal se trouve placée. Puisqu'il y a contestation envers sa décision et qu'il n'y a pas de tablette définitive, et puis la suite du texte nous donnait la fin de l'histoire, et malheureusement, nous ne l'avons pas. » Alors le texte est assez elliptique, on a des mots qui sont des apax, on a des réalités qui ne sont pas attestées par ailleurs, comme cette marque du simal qui semble indiquer un rattachement tribal. Et donc, les ambiguïtés du texte ont conduit à des divergences d'interprétation. Pour Sophie Desmarlafon, Dagan Teri aurait eu un premier mari qui l'a abandonné pendant 10 ans, puis qui revint de Katna. Et Dagan Teri aurait alors été répudiée ou serait devenue veuve et elle aurait épousé Rip Ilim en deuxième noce en lui donnant 2 enfants. Donc le premier mari, au début du texte, ne serait pas nommé. Cette interprétation pose quand même, à mes yeux, 2 problèmes. D'abord, si Dagan Teri avait été répudié, il serait un peu étonnant que le premier enfant, Abiérar, n'ait pas suivi son père. Mais qu'il s'agisse d'une répudiation ou d'un veuvage, il serait quand même étonnant que le récit fasse le silence sur une étape aussi importante de l'histoire. Je préfère donc suivre l'interprétation de Nele Ziegler. Elle pense que Rip Ilim, seul nommé, est l'unique mari de Dagan Teri. Dans l'optique du cours d'aujourd'hui, le point qu'il faut souligner et sur lequel les deux interprétations s'accordent, c'est que Dagan Teri, craignant que son mari ne vende comme esclave les 2 enfants nés hors mariage, obtient qu'il soit reconnu par son mari par le biais d'une adoption qui sauvegarde les droits du fils aîné. Il semble bien qu'il n'était pas possible d'adopter un esclave. C'est ce que montre un texte que nous avons déjà vu lors du deuxième cours. Un père, en consacrant sa fille comme kadishtoum, lui avait fait don d'une esclave. Et le texte continue disant, lorsque son maître, le père de la jeune fille, mourut, Idin Mailoum trompa Kaalan en disant, viens, je veux t'adopter comme fils. Kaalan emporta alors les biens de sa maîtresse, à savoir un bœuf, 11 moutons et 2400 litres de grain, et Kaalan les donna à Idin Mailoum. Avec le fait qu'il lui attribua durablement les biens de sa maîtresse, il, c'est-à-dire Idin Mailoum, rédigea un document concernant son adoption et il le fit sortir. Kaalan allait partir en voyage. La femme se mit en route, le saisit et cria « On m'a fait du tort !» Et elle de dire « Tu es mon esclave, que vienne celui qui t'a ôté de ma main !» Idin Mailoum vint et le saisit en disant « Tu es mon fils héritier, je t'ai adopté pour être mon fils !» Mais moi, intervint l'auteur de la lettre, je lui parlais ainsi. Est-il convenable que l'on adopte pour fils l'esclave d'une femme consacrée Kadishtoum, qui n'est pas fils d'homme libre? Voilà ce que je dis à Idin Mailoum. Donc, Idin Mailoum avait pris soin de faire rédiger un contrat d'adoption, mais le débat ne porte pas sur la réalité de l'adoption, il porte sur le fait qu'Idin Mailoum a adopté un esclave, et qui plus est, qui ne lui appartenait pas. Père, mère et enfant formaient à eux seuls une famille nucléaire, mais cette réalité ne constituait pas la totalité de la maisonnée. Le roi de Mari fut informé du fait que les habitants de Tabatoum, sur le Khabour, avaient déserté leur ville en ces termes. À présent, les gens qui forment la population de Tabatoum, petite cassure, ils ont tous vu le jour de l'hostilité, on est en période de guerre, de difficultés, chacun a pris la main de son épouse, de ses enfants et de ses gens, et ils sont partis à l'intérieur de la steppe. Alors la ville de Tabatoum, faute de gens, est totalement abandonnée. Alors qui sont les gens autres que épouse et enfants? Eh bien, on peut penser que ce sont surtout des esclaves des deux sexes, comme le montre cette plainte de l'officier Lamael dans un autre contexte. Je ne cesse d'aller à la pointe du combat. Mais les chefs des pillent ma maison. Donc on est dans le cas d'un militaire absent qui se plaint de ce que sa maisonnée est en butte à des difficultés. Monseigneur sait que dans le pays de Choubartoum, on a ruiné ma maison et on l'a dispersée. À présent, il n'y a plus d'esclaves ni de servantes dans ma maison. Les chefs des contestent et pillent mon épouse et mes enfants. Nous allons voir d'abord comment les nourrissons étaient confiés à des nourrices, puis nous verrons que maladie et mortalité frappaient les enfants, et nous essaierons ensuite de rassembler quelques données sur l'éducation et la vie en famille. Comme dans toutes les sociétés traditionnelles, les enfants étaient allaités jusque fort tard. Le sevrage intervenait généralement à l'âge de 3 ans révolus. La question de l'allaitement est l'une de celles où le biais documentaire est important. Pour l'ensemble de la population, les enfants étaient allaités par leur mère. Alors on pourrait croire que ça n'a pas laissé de traces écrites, eh bien ça n'est pas le cas, parce que dans les listes de rations ou les inventaires de personnel, les femmes qui allaitent sont signalées par l'indication « une telle » et « un garçon ou bien une fille au sein ». Ça se voit, par exemple, dans les listes de déportés venus de Haute-Mésopotamie que nous avons examinées tout à l'heure. En revanche, dans les familles de l'élite, et a fortiori dans les familles royales, on avait recours au service de nourrices. Nous n'avons pour l'instant aucun contrat d'allaitement provenant d'un site de Haute-Mésopotamie, mais on peut supposer qu'il en a existé, analogue à ceux provenant de Mésopotamie centrale et méridionale, mais en revanche, nous avons, encore une fois, des lettres. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce fragment publié par Ilya Ripov, où quelqu'un écrit à Zimrilim à propos d'un voyage à faire entreprendre par des bébés et leur nourrice jusqu'à Alep. J'ai pensé qu'il ne convenait pas de les faire monter dans un Nubaloum à lit. Les enfants, si leur nourrice ne monte pas avec eux, comment se tiendront-ils? Ne se mettront-ils pas à crier? Et le prestige du Nubaloum est trop grand. J'ai réfléchi à cela et je les ai fait monter sur une Mayaltoum. Leur nourrice voyage avec eux, Cette Mayaltoum, ce sont quatre bœufs qui la tirent. Alors on a deux types de véhicules qui sont ici mentionnés. On sait désormais de façon sûre que le Nubaloum est une sorte de chaise à porteur ou de palanquin. C'était le mode de transport le plus noble. Et l'expéditeur de la lettre ne retient pas cette idée pour deux ordres de considérations qui tiennent à la fois à l'étiquette et à des considérations pratiques. Pas question que des nourrices circulent dans un Nubaloum. Elles sont indignes d'un mode de transport qui est réservé aux gens de sang royal. Mais les enfants, tout royaux qu'ils soient, risquent de brailler si on les sépare de leurs nourrices. Et donc, c'est dans une litière tirée par des bœufs qu'ils voyageront à un rythme un peu plus lent, puisqu'un bœuf peut en moyenne parcourir 30 km par jour. Nelle Ziegler a pu montrer que les nourrices proprement dites ne sont jamais mentionnées dans les listes de rations du palais. Les enfants royaux habitaient donc à l'extérieur, dans la maison de leur nourrice, tant que durait l'allaitement. On trouve cependant quelques listes de dépenses de bière, notamment à Tel Leilan, où des nourrices figurent parmi les destinataires, et il est bien connu que la bière favorise la lactation, on s'en était manifestement déjà rendu compte à l'époque. On voit aussi à l'occasion Mukanishoum, intendant du palais de Marie, ordonner la dépense de tissu pour les langes d'une fille du roi Zimrilim, ainsi qu'un habit pour sa nourrice. Au bout de 3 ans, les enfants regagnaient le palais où ils étaient confiés à ce qu'on appelait jadis des nourrices sèches. La distinction est faite explicitement dans une lettre de Darish Libour. 3 nourrices mouchéniktoum, donc de vraies nourrices, et 3 gardiennes d'enfants, ou nourrices sèches, n'ont pas de vêtements, que Monseigneur fasse porter ici 2 vêtements pour chacune. Dans le harem de Zimrilim, l'onomastique des nourrices sèches est très intéressante parce qu'elle comporte toutes des noms composés avec « Abi, mon père », comme « Abilitaire, que mon père s'accroisse »,« Abi Bashti, mon père est ma fierté »,« Abi Nourri, mon père est ma lumière »,« Abi Loudari, puisse mon père vivre longtemps ». Donc c'est une onomastique de fonction et de bon augure. Il faut s'imaginer que chaque fois qu'un petit enfant appelait sa nourrice, eh bien, il faisait des vœux pour son père. « Abiloudari !» Et donc, on entendait « Puisse papa vivre longtemps !» C'est formidable, hein ? Et il est vraisemblable, donc, que ces nourrices sèches étaient chargées de surveiller et d'éduquer les enfants royaux pendant la tranche d'âge qui séparait la période de l'allaitement du moment où les garçons, en tous les cas, allaient être éduqués comme de futurs hommes. Les anciens avaient conscience de la fragilité des petits-enfants, en particulier lorsqu'il fallait les faire voyager. On a une lettre d'Anne Lilipouche à Zimrilim qui en offre le témoignage. « Voilà que j'ai confié Abdou Malik, fils de Kapi Eshour, à Yantinadou, le coureur, et je le fais aller chez Monseigneur. Mais Limedagan, le second fils de Kapi Eshour, et Aramarchi, fils de Koussia, le coureur, ces 2 enfants sont tout petits, ils ne peuvent pas faire la route, je les ferai monter dans, et là on n'a que le début, donc on ne sait pas si de quel type de véhicule il s'agit, si c'est une litière ou un chariot, mais en tout cas c'est un véhicule. » Une lettre de Shunuraralu à Zimrilim montre, dans un contexte semblable, le souci du roi d'Alep Hammurabi, dont il retranscrit les propos en détail. Au sujet du bébé Yarimlim, à propos de qui Monseigneur m'a écrit, j'ai parlé à Hammurabi, donc encore une fois le roi d'Alep, et il m'a dit « L'hiver vient d'arriver, comment un tout petit enfant pourrait-il se déplacer ? Allons !» S'il fait le voyage, chevaux, bœufs et tout ce qui compose le présent que j'enverrai avec le bébé à mon frère, Zimrilim, au moment des pluies, en plein hiver, comment tout cela pourrait-il aller ? Il ne peut se déplacer. Pour l'heure, il tète encore. C'est un nourrisson. Il n'est pas encore sevré. Pour l'heure, ce bébé n'a que 2 mois. Le bébé Yarimlim sera d'abord sevré. Jusqu'au beau jour, il ne convient pas à être envoyé. Voilà ce que Hammurabi m'a répondu. Donc c'est quand même étonnant de voir le roi d'Alep qui rentre dans un détail aussi précis. Alors, on ignore pourquoi cet enfant devait voyager jusqu'à Marie, mais il est vraisemblable qu'il s'agit ici du futur roi d'Alep, Yarimlim, qui succéda plus tard à son père, Hammurabi. On possède des informations relatives à la santé d'un autre prince alépin nommé Abban. En ce qui concerne le petit Abban qui était malade, Je traversais à Toutoul au moment où Dadi Khadoun a écrit à Monseigneur. J'ai fait prendre les présages à propos de ce petit enfant. Le dieu Itourmer s'est manifesté à moi. J'ai fait installer dans la ville d'Abatoum un périkoum, une sorte d'autel, d'Itourmer, et l'enfant a offert un sacrifice. Maintenant, l'enfant a recouvré la santé, le dieu de Monseigneur lui est venu en aide. Donc cette fois, ce n'est plus un nourrisson, c'est un enfant qui est capable d'offrir par lui-même un sacrifice. Et donc, tout va bien. La maladie était à l'époque considérée comme une manifestation du mécontentement, voire de la colère d'une divinité. Et donc celle-ci retirait sa protection à l'individu contre qui elle était en colère, et cela permettait à des démons de provoquer une maladie. Lorsque les Mésopotamiens examinaient un patient, le diagnostic médical était complété par une enquête oraculaire afin de déterminer quelle divinité était à l'origine du mal. L'expression couramment employée, c'était « Kat ilim eli un tel ibashi, la main du dieu, ou d'un dieu, comme on veut, est sur un tel. » Et donc, nous avons ce texte qui dit ceci. « Je suis arrivé à Alep et Elilish m'a dit au sujet de l'enfant, fils de Shamash-Natsir, la main du dieu ou d'un dieu qui est sur lui reste menaçante. Une fois, deux fois déjà, lorsqu'il vivait auprès du roi, il a été touché par la maladie. Or, j'ai souvent entendu dans mon entourage ceci, il y a quelqu'un à Marie qui peut ôter la main du dieu. Celui qui est touché va jusqu'à Marie et la main du dieu est ôtée. À présent, si l'affaire plaît à Monseigneur, que Monseigneur m'écrive afin que je ramène ce garçon avec moi et qu'on ôte la main du Dieu qui est sur lui. » Donc l'enfant malade pourrait bénéficier à Marie du traitement par un exorciste particulièrement réputé dont le nom n'est pas donné. Tous les enfants n'avaient pas la même chance. Comme le montre ce bordereau enregistrant le décès d'un nourrisson, une fillette au sein, morte, fille de Azia, provenant du butin de Kunnoum, placée sous la responsabilité de Yaratiel. On a ensuite les noms des gens qui ont constaté le décès et la date. Alors, en l'occurrence, il ne s'agit pas de tenir à jour les listes de rations, puisque le bébé était encore allaité par sa mère, mais il fallait éviter que le recensement des déportés très précis, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ne soit faussé. La maladie n'était pas la seule cause de mortalité infantile. Les enfants étaient parfois victimes de bêtes sauvages, comme dans ce cas rapporté par Yakimadou. Un lion mangeur d'hommes qu'on avait chassé du district il y a 4 mois, depuis un mois qu'il y est revenu, a tué 4 enfants. Il ne ressemble pas à celui qui naguère décampait à la vue d'un groupe de personnes. À l'heure actuelle, ce lion a entrepris de s'attaquer même à des groupes de gens. Il arrivait fréquemment que des enfants meurent très peu de temps après leur naissance, mais le taux visiblement élevé de mortalité infantile ne doit pas nous faire croire que la sensibilité des anciens était émoussée. Ce serait une erreur, et une lettre adressée à Darish Libour, le barbier du roi, donc très proche de celui-ci, nous le montre. À propos de la fille de la reine, il, c'est-à-dire un prophète, avait eu une transe. La fille de Monseigneur n'a pas vécu. Aujourd'hui, elle est morte. Elle était née le même jour, Iragamil avait eu une transe disant « Elle ne vivra pas ». Avant que le roi n'atteigne Marie, dis-lui que cette fillette est morte, qu'il soit au courant. Il est à craindre que le roi, s'il apprend la mort de cette fillette à son entrée à Marie, ne se mette à être profondément troublé. Donc, on craint une réaction émotive forte du roi qui n'avait pas été prévenu de la prophétie néfaste antérieurement. Et donc, l'entourage du souverain est assez embarrassé. La découverte de cadavres d'enfants semble devoir être signalée au roi systématiquement. On a par exemple une lettre de Yakimadou, le gouverneur de Sagaratoum, qui dit ceci, « Nabi Shamash, serviteur de la Nassoum qui allait chez Monseigneur, et un messager du Zalmakoum avec lui, ayant découvert le corps d'une fillette enveloppée dans un linge, dans les régions basses de Samanoum, et l'ayant amené à Dumtan, ils interrogèrent les anciens, et puis la suite n'est pas conservée, on doit chercher à identifier, bien sûr, l'enfant en question. Mais il y a pire. Bardilim, qui était gouverneur de Marie, écrivit un jour une lettre au ton bien embarrassé, et je vous demande d'excuser les détails macabres de sa description. « Un nourrisson né l'année dernière, gisait en face du vieux palais qui se trouve au-dessus de la région basse, à proximité du canal. Cet enfant avait été coupé à la taille. Il existait de la poitrine jusqu'à la tête, mais sans tête, et il n'existait pas jusqu'aux pieds. Était-ce un garçon ou fille? Qui peut savoir? Donc avec le tronc. Depuis sa taille jusqu'en bas, il n'existait plus. Le jour même où j'appris cette histoire, j'ai donné des ordres en bonne et due forme et pressé de questions les chefs de quartier, les maîtres ouvriers et les étrangers domiciliés, mais ni le maître de l'enfant, au cas où ça aurait été un esclave, ni son père, ni sa mère, ni quelqu'un au courant de l'affaire ne s'est manifesté à moi. Le jour même, j'ai transmis cette nouvelle à Monseigneur par Béli Loudary, et depuis 7 jours que j'ai envoyé Béli Loudary, j'ai beau presser de questions, sous-entendu, je n'arrive pas à savoir de qui il s'agit. Les lettres nous fournissent à l'occasion des témoignages sur l'éducation et la vie familiale, je n'en donnerai que quelques exemples. On voit ainsi Yassidagan dresser le portrait de 3 gouverneurs successifs de Katounan sur le Moyen Rabour. Précédemment, Akinurubam, un nomade, avait été installé à la fonction de gouverneur de Katounan, puis ce fut Idinannou, un sot sans aucune expérience, qui y était installé. Maintenant, c'est toi, un scribe dont l'œil est clair et qui, depuis ta prime enfance, a été élevé à la porte du palais. On peut aussi citer le cas d'enfants qui sont confiés à des chefs musiciens pour leur formation, et on a en particulier cette lettre assez curieuse. Au sujet des enfants non formés du service de Ilchou Ibichou, Monseigneur m'a écrit en ces termes: je t'ai parlé relativement au fait de faire dormir leurs yeux. Pourquoi n'as-tu pas fait dormir leurs yeux? Aussitôt, on a fait dormir leurs yeux. Je les ai confiés au service d'Ilchou Ibichou en bonne santé. On connaît les aptitudes particulières des musiciens aveugles et ce texte semble montrer qu'on n'hésitait pas à priver des enfants de la vue pour leur donner ensuite une formation de musicien. Bien souvent, c'était dans le cadre familial que les enfants étaient éduqués et l'on constate la transmission des métiers de père en fils. Mais il arrivait que les pères aient des absences de longue durée en raison de leurs activités professionnelles. Cette lettre du général Yassim Dagan est de ce point de vue intéressante. Il écrivit à son épouse Barlatoum: jusqu'à présent, je n'ai pas appris la destination de l'expédition. Que te dire de plus? Montre-toi une digne femme pour l'organisation de ta maisonnée et envoie-moi des nouvelles de toi et de mes enfants. Les militaires n'étaient pas les seuls à devoir quitter leur famille pour des raisons professionnelles. C'est ce que montre une lettre de Samsiadou à Yasmaradou. Pourquoi donc le maître maçon Ili Dagan se trouve là-bas, c'est-à-dire chez toi, à Marie? Pourquoi est-il inoccupé? Chez toi, il n'y a pas de temple à construire, il n'y a pas de palais à construire. Envoie-le à Choubatenlil. Mais il ne sera pas muté ici définitivement. C'est là-bas, chez toi, à Marie, que sa famille continuera d'habiter, et c'est lui qui, de la même façon qu'auparavant, gardera la direction de tes maîtres maçons. Envoie-le néanmoins à Choubatenlil. À Choubatenlil, le temple de telle divinité est à construire, qu'il le construise. Donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un contrat de mission. Mais lorsque la mutation avait été définitive, le chef de famille pouvait obtenir que sa famille le rejoigne. Excusez-moi, il y a un texte qui manque, peu importe. Je lis le texte. Aya Meshlou occupe la fonction de surveillant des troupeaux à Razama. Son fils aussi se trouve occupé ici un poste aux côtés de son père. Or, les gens de sa famille sont retenus à Marie. Maintenant, fais conduire sa famille chez son père. Il ne faut point que cet homme ici en éprouve le manque. Il est grandement affligé. Dans d'autres cas, la séparation n'était pas due à une mutation, mais à la guerre. Une lettre de Turumnatki, montre comment une femme et ses enfants, séparés de son époux à la suite d'une déportation, furent restitués au mari. Tishpakili, qui résidait à Ashnakoum, apprit à Kirdarat l'épouse d'Apilsim, son serviteur, et ses enfants, lorsque mon père a déporté la population de Kirdarat. À présent, Tishpakili est parti pour sa ville, mais mon père a retenu la femme et les enfants en lui disant: « Toi, n'emmène pas dans ta ville l'épouse de l'homme et ses enfants, son mari est là. » Mon père les a donc retenus, maintenant que mon père les confie aux mains de mon messager, sinon ton serviteur s'en prendra à moi. Donc on veut regrouper la famille dispersée par la déportation. Les enfants royaux connaissaient un sort pas toujours envieux. Certains pouvaient devenir otages, comme ceux du roi des Touroukéens, Zazia. Zazia a fait conduire ses enfants en signe d'allégeance chez Zazoum, le roi goutéen, et il lui a payé son tribut. Et puis, on a le cas d'enfants qui risquaient d'être mis à mort en période de trouble. Depuis quelque temps déjà, Atamrel se proposait de partir chez Monseigneur, écrit-on à Zimrilim. Or, à cause de sa famille, il se retrouvait bloqué, disant « Je vais partir, dès après mon départ, on va tuer ma famille et mes enfants qui sont tout petits. » Voilà ce qu'il m'a dit. Atamrel, ayant réfléchi en lui-même, a donné à protéger ses deux enfants tout petits à l'Arundagan. Ce dernier les a pris sous sa protection. Donc, devant se rendre auprès du roi de Marie, Atamrel choisit de confier certains de ses enfants à un autre chef yaménite, mais finalement, cette solution ne lui a pas paru très sûre, et il s'est ravisé, comme l'indique la suite de la lettre. Atamrel et Sabinoum, le chef de pâture du Yarir, sont venus à moi et m'ont tenu ces propos, disant « Nous sommes disposés à partir pour chez notre seigneur Zimrilim, or, allons-nous abandonner nos familles ?» Si nous devons partir, envoie un message à ton seigneur pour qu'on expédie ici 5 barques et qu'alors les hommes quittent leur place sur les barques pour que nous embarquions avec nos familles et que nous partions pour chez notre seigneur. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ce sont dans les barques qu'ils mettent leur espoir de vie. Mon seigneur doit les expédier vite sans révéler à quiconque ce plan. Nous avons déjà abordé la question de la mort à propos de la mortalité infantile, mais les dossiers les plus importants concernent bien entendu les adultes. En Mésopotamie, la mort ne mettait nullement fin aux relations entre les membres d'une même famille. On croyait en effet à une forme de survie atténuée. Les morts n'existaient pas seulement sous la forme d'un cadavre, dont il ne restait bientôt plus que les os, ils survivaient sous la forme de ce qu'on appelle en babylonien « etemmoum », on a du mal à traduire, esprit, fantôme. Et les survivants devaient assurer aux défunts une demeure qui empêche leurs fantômes d'errer et devenir menaçants. Ils étaient aussi chargés de leur fournir nourriture et boissons, mais les morts laissaient souvent des biens à leurs descendants, et donc nous verrons comment les héritages étaient partagés. La mort était prise au sérieux, et dans certains cas, les vivants s'y préparaient. Mais on va voir qu'elle survenait aussi parfois de manière inopinée. Certains rois, sentant l'âge venir, se préparaient à la mort. Rosel Pienka l'a montré pour Amourabi de Babylone, et simultanément, Nello Ziegler faisait de même pour le roi de Carchemish à Plaranda. Deux lettres d'Ishtaran-Natsir, écrites depuis la ville de Carchemish, à Zimrilim, explique en effet au roi de Marie que son désir de voir à Plaranda lui envoyer un musicien ne pouvait être exaucé. Le roi de Carchemish l'avait en effet voué au dieu Nergal, qui est le dieu du monde infernal. Et la deuxième lettre insiste. « Comme je l'ai déjà écrit à Monseigneur auparavant, il, c'est-à-dire à Plaranda, ne fait que vouer des musiciens à Nergal. » Et commentant ce dossier, Nello Ziegler avait noté, je la cite, « Il est vraisemblable que, sentant sa mort prochaine, à Plaranda crut préférable de se propitier le dieu des enfers plutôt que son voisin Mariotte. » Et elle justifiait son analyse par la date de la lettre qui précède de peu le décès d'Aplaranda, annoncé à Zimrilim par le même Ishtaran-Natsir un peu plus tard. Mais la mort prenait parfois tout le monde par surprise, comme dans le cas de la grande épidémie qui eut lieu durant l'été de l'éponymie d'Ashur-Malik en 1780 avant notre ère. La majorité des témoignages concernent la fin de l'épidémie. Et nous le savons parce que Yasmaradou était en dehors de son royaume, il menait une campagne militaire à l'ouest de la haute Mésopotamie, et donc il a été régulièrement tenu au courant. Le dieu vient de se calmer envers le pays tout entier. Depuis le mois d'Aboum, le 25, jusqu'au mois de Tiroum, le 5 au soir, le dieu a sévi. Les malades, qui avaient été touchés, ont survécu, et au mois de Tiroum, le 10, j'ai fait prendre les présages pour enterrer le tas des morts. Le dieu va répondre oui. Tout un chacun de ceux qui subsistaient a enterré le cadavre qui lui incombait. Au mois de Tiroum, le 14, les exorcistes et les lamentateurs ont purifié la ville. Le Dieu vient de se calmer envers le pays. Que Monseigneur le sache. Il est possible que Yasmaradou ait perdu son fils unique à cette occasion, et ce pourrait être le contexte de la longue lettre qu'il écrivit au dieu Nergal. J'en cite un extrait à la fin. « Aujourd'hui, pourquoi m'as-tu pris mon fils ?» se plaint le roi de Marie au dieu Nergal. « Les rois avant moi t'ont demandé un accroissement du royaume. À présent, pour ma part, je te demande vie et descendance. Ne convoite pas ceux qui sont encore vivants, que le pays ne s'éteigne pas. » Et on retrouve le même usage du verbe beloum qu'à propos des maisons lorsqu'il s'agissait de particuliers. Les pertes humaines consécutives à cette épidémie semblent avoir été considérables, et une lettre de l'intendant Machia l'indique explicitement. « Vu que la main du Dieu qui était sur le pays s'est apaisée, j'ai fait rédiger une tablette sur le personnel décédé concernant les tisseuses, les travailleurs agricoles, les, puis un nom de métier cassé, et les ateliers, et je l'ai fait envoyer à Monseigneur. Il faut que Monseigneur voie cette tablette. » Donc, le royaume de Marie a été gravement affaibli numériquement et désorganisé, et c'est sûrement un des facteurs qui explique pourquoi il ne put résister en définitive aux assauts menés par Zimrilim et ses alliés. Mais on note néanmoins que la mise à jour des registres se faisait régulièrement, même en dehors des épisodes de pandémie. En témoigne ce billet, Roubaïa, morte, intendante à Barakatoum, du service de Iloukan, et au revers, nous avons la date de la rédaction du texte et donc du constat du décès. Après le décès, il fallait donner une dernière demeure aux défunts, et l'inhumation était alors la pratique la plus courante. Je rappellerai ici une distinction essentielle pour laquelle je citerai Antoine Jacquet. Les rites funéraires sont tous des gestes religieux entourant la mort et destinés avant tout à accompagner le défunt sur le chemin de sa nouvelle existence. Ces rites ont aussi pour but d'aider les vivants à vivre personnellement et collectivement l'absence du défunt. Le culte des ancêtres relève d'une autre problématique et d'une autre logique, celle de la commémoration collective et de la mémoire personnelle. Il établit un pont entre les vivants et les morts, dont le confort commun est en jeu, ainsi qu'entre le présent et le passé, où le groupe s'enracine. Malheureusement, on fait souvent la confusion entre ces deux pratiques sociales quand on parle de culte funéraire, ce qui est une notion un peu confuse. Les deux choses sont bien différentes dans leur temporalité, puisque d'un côté, on a les rites qui ont lieu immédiatement après le décès, tandis que le culte des ancêtres se caractérise, au contraire, par son caractère récurrent. En principe, les morts étaient enterrés de manière ritualisée, et c'est une nouvelle fois pour les rois que nous avons le plus d'informations, mais il arrivait que des situations anormales se rencontrent. L'enterrement du roi d'Apoum Turumnatki, qui est mort en l'an 4 de Zimrilim, semble s'être déroulé de façon normale, la période de deuil étant suivie par l'intronisation de son successeur, comme le rapporta Hali Radoun à Zimrilim. Je cite « Karnilim a enterré Turumnatki dans le pays d'Apoum. Il a alors réuni les rois des alentours de Shubat Enlil et ils ont fait la déploration pour Turumnatki. » Et Karnilim s'est prostré sur le sol, et ils ont installé le fils de Turumnatki à la royauté dans Shubat Enlil. Tout autre avait été, quelques années auparavant, le sort de Karnilim, roi d'Andarik. Après son assassinat, sa tête fut retrouvée, mais pas le reste de son corps, comme l'indique le gouverneur de Marie, Bardilim. J'ai donné des ordres en bonne et due forme à Yakimadou, gouverneur de Sagaratoum, et à Zimriadou, gouverneur de Katounan, de faire le tour des villages. Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas retrouvé son cadavre, et j'ai entendu dire ceci, on a enveloppé son cadavre dans des linges et on l'a laissé aller au Rabour. À présent, je n'ai pas trouvé son cadavre, et sa tête se trouve à Katounan. Sa tête doit-elle être enterrée? Et dans quelle ville doit-elle être enterrée? L'endroit où elle sera enterrée sera-t-il à l'extérieur ou à l'intérieur de la ville? Lorsque nous l'enterrerons, l'enterrerons-nous de façon détournée? Tous sont à l'affût de ce que je vais faire. Que mon Seigneur m'écrive ce qu'il doit en être. » Donc on voit l'embarras du pauvre Bardilim et sa crainte de prendre une mauvaise décision dans une situation inédite. C'est au roi de dicter ses ordres. Et bien entendu, on n'a pas retrouvé la lettre de réponse à ses demandes. Où se trouvaient les tombes? On doit avouer que nos données en Haute-Mésopotamie ne sont pas très abondantes pour le XVIIIe siècle. On a bien retrouvé quelques tombes sous des maisons d'habitation, de la même manière qu'en Mésopotamie centrale et méridionale. Le petit palais oriental de Marie a permis la découverte d'un spectaculaire complexe funéraire en sous-sol, situé juste en dessous de la salle la plus importante de ce bâtiment, mais qui malheureusement avait été pillé dans l'Antiquité. Au contraire, vous le savez sans doute, palais de Katna a livré des tombes intactes et dans la pièce centrale, outre de nombreuses céramiques, se trouvait un sarcophage en bois dans lequel les restes de trois personnes ont été retrouvés, mais leur date et leur identité demeurent objet d'hypothèse. L'enterrement était accompagné du dépôt de nombreux biens dans la tombe du défunt. Un texte passionnant montre que les tombes royales, en raison de leur richesse, pouvaient servir de réserve de matières premières réutilisables en cas de besoin. Mais Samsi Hadou, qui espérait que la tombe de Yartounlim contenait de nombreux objets en bronze qui lui permettraient par refonte d'équiper ses armées de lances, a été bien déçu par le rapport qu'il reçut de ses administrateurs. La coutume bédouine voulait que les morts fussent commémorés par différents types de monuments. Je n'ai pas le temps de m'y attarder et je vous renvoie au livre que Jean-Marie Durand a consacré à ce sujet. Le principe du culte des ancêtres est de marquer la solidarité des générations. Et c'est à Suse qu'a été retrouvé un des textes les plus explicites à ce sujet. Un père y dit très explicitement à ses héritiers « Tant que je vivrai, vous me donnerez à manger, et quand je serai mort, vous accomplirez le kispoum. » Ce rituel du kispoum était une sorte de banquet funéraire qui avait lieu deux fois par mois, aussi bien dans les maisons des particuliers que dans le palais. Les textes administratifs du palais de Marie ont conservé des dizaines de bordereaux enregistrant des dépenses à cette occasion. Certains prophètes pouvaient trouver nécessaire de rappeler le roi à ses devoirs. C'est ce que fit l'un d'eux à Terka, et le gouverneur écrit au roi « Le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez Monseigneur, un extatique de Dagan m'est arrivé, et voici la parole qu'il m'a dite. Le Dieu m'a envoyé. Dépêche-toi d'écrire au roi afin que l'on voue des rites funéraires à l'Etemoum de Yardunlim. » Et c'est en raison de ce texte qu'on a conclu que Yardunlim avait été enterré à Terka, ce qui n'est pas totalement certain. Être privé de descendance était le pire châtiment qu'un homme pouvait vivre. En témoigne le cas suivant, je cite la lettre, « Les trois fils de Batahroum viennent de mourir, tous trois en même temps. Le premier jour, ils ont été malades, et Batahroum m'a envoyé un message pour avoir un devin. Je lui en ai envoyé un. Le deuxième jour, comme la nuit tombait, ils sont morts, tous trois ensemble. Après une nuit sur le lit, on les a fait sortir et on les a enterrés. Il, c'est-à-dire Batahroum, n'a plus de descendance. Tout autour de moi, j'ai entendu répéter « Il y a chez cet homme X mine d'argent, propriété divine. » Manifestement, l'opinion publique cherchait à comprendre l'origine du malheur affreux de Batahroum. La mort soudaine et simultanée de ses trois fils le privait en effet de descendance et l'on soupçonnait qu'il avait commis une grave faute religieuse entraînant le courroux des dieux. Il n'existait pas de testament en Haute-Mésopotamie dans la première moitié du deuxième millénaire. Le partage des héritages était réglé par la coutume et il n'a pas laissé dans cette région autant de traces écrites que dans le centre ou le sud, loin de là. Le seul contrat de partage que nous possédions provient de Terka. Au contraire des contrats méridionaux, notamment ceux de Nippur, il ne donne pas la liste détaillée des biens répartis entre les héritiers, mais se contente d'indiquer ceci. Marchamash, Waratsin et Moutramé sont les fils de Shamashili. Des biens autant qu'il y en a, Marchamash a reçu en partage ses deux parts. Waratsin et Moutramé ont partagé le reste à égalité. Un frère ne revendiquera pas contre son frère. S'il revendique, il devra verser une certaine somme d'argent. Ils ont juré par leur roi et nous avons ensuite la liste des témoins. Et on retrouve dans ce texte la règle d'héritage que nous avons déjà vue dans le contrat d'adoption examiné tout à l'heure. Je vous le rappelle donc, Si Halaloum et Halitoum ont d'autres fils, Yahatiel restera l'héritier, c'est-à-dire l'aîné. Il prendra une double part des biens dans la maison de son père et ses frères plus jeunes partageront le reste à égalité. Autrement dit, on divisait l'héritage en autant de parts que d'héritiers plus une et l'aîné recevait deux parts. D'une manière étonnante, c'est le même droit coutumier que celui qu'on trouve à Larsa, alors que dans d'autres villes du Sud, comme Nippur, Izin ou Our, l'aîné a une part préférentielle de 10%. Donc il a un privilège également, mais qui est calculé différemment. Il semblerait que, dans certains cas, le roi pouvait prélever une part sur les héritages. C'est ce que montre ce texte administratif qui enregistre 2 mines d'argent part du roi lorsque les fils de Kapihanat, homme de Rumsan, ont partagé l'héritage, transmission au coffre du roi, à Marie. La somme est conséquente, mais le phénomène n'est attesté que par ce seul document administratif, de sorte qu'il est difficile d'en tirer des conclusions. Nous possédons, en revanche, d'assez nombreux inventaires après décès. Ils n'étaient pas dressés pour procéder directement au partage entre les héritiers, il s'agit de l'inspection des biens de serviteurs du roi, et cela permettait à l'État de reprendre possession de ce qui lui appartenait. Et la division entre les biens propres du défunt, transmissibles à ses héritiers, et ce qui appartenait au palais n'était pas toujours simple. On possède une lettre de Tzidkiépour par laquelle il cherche à récupérer ce qui appartenait à son prédécesseur, Yassim Soumou. « Monseigneur m'a placé à un poste important. Je ne suis pas assez fort. Comme le Dieu qui appelle l'humanité, à présent, moi, ver de terre vivant dans la base du mur, Monseigneur, dans sa divinité, m'a touché le menton et m'a renvoyé chez les hommes. Or, je ne possède rien du tout. Monseigneur m'a fait monter sur un char. Avec quoi en nourrirais-je la monture? Et le bœuf pour la taxidissoum, avec quoi le nourrirais-je? Le visage de Monseigneur est tourné vers une expédition. Je ne peux donc aller parler à Monseigneur. En outre, j'avais envoyé un message à Monseigneur par l'entremise de Chounouraralou. Monseigneur n'a pas fourni les décisions concernant mon affaire. À présent, les 80 arpents de champ de Yassim Soumou à Michelane. Là-dessus, on a donné 20 arpents à ses enfants. De ce champ, il faut que Monseigneur me donne en supplément, autant qu'il est possible de donner en supplément, afin que je moissonne le grain et que je retourne les mottes. Jusqu'à présent, on a nettoyé le sol et il faut que je puisse cultiver là où cela est possible. Maintenant, c'est déjà le temps de la moisson. Dans un sens ou dans l'autre, il faut que Monseigneur m'envoie un ordre complet. Si Monseigneur ne me soutient pas au moment de la moisson, quand donc me soutiendra-t-il? Devrais-je emprunter un intérêt auprès de mon district afin de manger 10 ougars ou 20 ougars de grain? Où cela est-il suffisant? Monseigneur ne doit pas m'amener à emprunter un intérêt. Alors on a là un plaidoyer pro domo qui est très intéressant, à la fois en raison de l'art épistolaire qui s'y déploie et des informations qu'on y apprend. Le début relève de la rhétorique courtisane avec un auto-dénigrement qui va de pair avec l'exaltation de la personne du roi. Ce texte n'est d'ailleurs pas le seul où la divinité du roi soit évoquée, mais c'est celui où la thématique est la plus développée. L'auteur insiste sur le contraste entre la haute position que le roi lui a accordée et le dénuement dans lequel il se trouve. Sa situation économique ne lui permettra pas de tenir son rang puisqu'il n'a pas de quoi nourrir les bêtes qui doivent tirer son char et elle ne lui permettra pas davantage de verser au roi les redevances qu'il lui doit et notamment cette taxe annuelle que l'on appelle l'igissoum. Mais le roi se révèle inaccessible. Une audience est impossible, puisqu'il est parti pour une campagne militaire, mais il ne répond pas non plus au courrier qu'on lui adresse par l'entremise de son secrétaire, qui est au passage mis en cause. Après ce long prologue, Tzidkiépour en arrive au cœur de l'affaire, c'est la succession de Yassim Soumou, dont il a repris la charge de Chandabakoum. Yassim Soumou détenait un champ de 80 arpents à Michelane, non loin de Marie, et à sa mort, le quart de cette surface a été dévolu à ses enfants, et Tzidkiépour voudrait que le reste lui soit attribué, faute de quoi il en serait réduit à emprunter, et de façon très intéressante et unique à ma connaissance, le fait d'avoir recours à un prêt pour se nourrir est ici présenté comme un grand déshonneur. Les autorités avaient le souci du devenir des domaines tombés en déshérence, comme le montre cette lettre de Laoum à Yasmaradou. Je cite, « La maison de Barlougaïm, ton serviteur, vient d'être anéantie suite à la peste et tous ses enfants sont morts. Il n'y a plus personne qui ait un droit sur cette maison. Maintenant, si cela agrée à Monseigneur, qu'il nomme à la tête de cette maison, parmi tes serviteurs au service de Monseigneur, Sam Métard, serviteur de Monseigneur, que Monseigneur expédie cet homme à sa maison afin qu'elle ne disparaisse pas. » Ici, contrairement à d'autres contextes, il ne faut pas comprendre maison comme famille, il s'agit du domaine que possédait le défunt, et la suggestion de Laoum n'était pas tout à fait désintéressée parce qu'il se trouve que le Sammétard qu'il propose au roi pour reprendre le domaine de Barlougaïm était son propre fils. La semaine prochaine, nous quitterons le droit des personnes et nous aborderons le droit des biens et je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.